Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 51 de ce vendredi 5 avril. Avec nous, les gars de la presse, Guillaume Lefrançois. Salut, Guillaume.
Salut, JR.
Richard Labbé. Salut, Richard.
Salut, Jérémy.
En studio. All right. Yeah. Yeah. Antoine Roussel, qui est là pour le 98.5 FM. Salut, Antoine.
Salut, messieurs.
Bon, les gars, aujourd'hui, on va se parler des Rangers et des Devils. Ça tombe bien, Antoine est avec nous sur le balado, parce que cette semaine, c'était le Festival de la Mornif, et j'ai pas vu grand monde se cacher les yeux. Il y en a beaucoup qui ont célébré hein, sur les réseaux, on diffusait tout ça. On a vu des images d'Henrik Lundqvist, entre autres, qui était, il semblait participer mentalement, disons, à cette échauffourée entre les Rangers et les Devils. On va parler des Islanders, des Penguins qui sont de retour dans la course dans l'Est. On va se parler que le Hockey News, selon le Hockey News, on dit que les deux dernières années du contrat de Rogers seraient à vendre les droits du lundi, et on parle d'Amazon, donc ça sera peut-être une nouveauté pour les deux dernières années du contrat de Sportsnet avec la Ligue nationale de hockey. Mais revenons chez le Canadien de Montréal. 5 avril, c'est officiel, le Canadien est éliminé. Et après le match, Martin Saint-Louis en a sorti encore une pas pire en disant, tu sais, t'as l'option que ce soit soit des funérailles ou soit une célébration de la vie. Donc, je vous pose la question, je commence avec Guillaume. Funérailles ou célébration de la vie cette saison du Canadien?
C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un monde entre les deux.
C'est grave.
Exact.
Est-ce qu'il y a dit célébration de la vie?
Célébration
exactement
de la vie.
Comme ça?
Oui, oui, célébration exact. Exact. Oui, okay. Oui, parce que c'est, je pense que c'est une expression qu'on emploie plus souvent dans le life celebration.
Ah.
Donc, c'est ça. En voulant dire, finalement, c'est ces fois-là où tu vas au salon funéraire, mais que c'est beaucoup plus
c'est
joyeux,
c'est festif.
Anecdote, ouais. Mais l'été dernier, j'ai été à des funérailles, justement, et c'était des funérailles bar open.
C'est une célébration de la vie.
Alors ça, c'était une célébration de la vie. C'était honnêtement très joyeux, tout ça, et c'était à l'image du défunt.
Comment ça a fini, Guillaume?
Ben, c'était à Québec, donc on n'a pas tant pu profiter du bar open, je dirais.
Ah, maudit. Ça a l'air qu'il s'est retourné dans sa
tombe. C'est une bonne idée, ça, par exemple.
Ah, c'est une très bonne idée.
On devrait tout faire, ça.
C'est une très, très bonne idée. Alors, je ne sais pas si ça va être bar open demain soir au Centre Bell pour rester dans la thématique.
Ça me surprendrait énormément.
J'imagine que c'est ce que Martin Saint-Louis voudrait.
Mais vous avez compris le principe. En fait, ce qu'il disait, c'est est-ce que c'est négatif ou plutôt c'est une célébration pour dire il y a des points positifs. Donc, je te repose la question. Funérailles exact. Ou célébration de la vie?
Ben, c'est ça. Je commençais par
c'est un détour. Hein?
Qu'il y avait un monde entre les deux, c'est-à-dire que des équipes comme, on va dire, les Islanders, les Penguins, s'ils ratent les séries, dans leur cas, ça va être vraiment des funérailles, parce que c'est des équipes qui ont vraiment tout mis. Le Canadien, on le savait dès le début de l'année, qu'ils n'avaient pas de chance de participer aux séries. Est-ce que cette équipe-là a progressé? Oui. Est-ce que c'est une équipe qui va être assurément en série l'an prochain? Et est-ce que c'est une équipe qui va aspirer à la Coupe Stanley dans les trois prochaines années? Je suis pas sûr. Alors, c'est en ce sens-là que j'hésite non plus avant de trop me lancer dans les grandes célébrations de la vie. Je veux dire, oui, il y a des points positifs, il n'y a aucun doute. Là, puis je veux dire, on en a abondamment parlé ici. Juraj Slafkovský est probablement le point positif numéro un de cette équipe-là. Ça reste que, bon, ben tout n'est pas parfait. Puis on a vu d'ailleurs hier que, par exemple, dans le cas de Kaden Primo, qui a montré une belle progression pendant l'année de façon générale, ben des soirées comme hier nous rappellent que ça va demeurer quand même un parcours en montagne russe, qu'il va y avoir des hauts et des bas. Alors, c'est pour ça qu'avant de trop s'emporter avec une célébration de la vie, il y a un entre-deux qu'on peut trouver.
Mm. OK. Richard, tu es le réaliste du
exact.
Groupe. Funérailles ou célébration de la vie ou un autre choix que tu vas nous sortir, peut-être? Mais ça va être une autre question.
Je dirais c'est un genre de brunch triste. Tu sais, quand tu vas bruncher, puis t'es... C'est moins le fun que tu le pensais.
Avec la belle famille, mettons.
Ouais, c'est un genre d'affaire de même. C'est un brunch
triste. T'es couché tard la veille.
Ouais, aussi.
Okay. On pourrait s'entendre sinon sur rendez-vous chez le notaire.
Ouais, aussi.
Des choses comme ça.
que c'est moins le fun. Mais je vois peu de raisons. Tu sais, je comprends. T'sais, comme Guillaume dit, on peut, je pense, chez les partisans, se rattacher à certaines choses. Là, on peut. Il y a des joueurs qui ont bien paru, puis il y a des joueurs qui ont progressé. Je comprends 100% ça. Mais j'ai de la misère avec regarde, on rate les playoffs, puis regarde, c'est correct. C'est ce qu'on pensait, puis on s'attendait à ça. J'ai beaucoup de misère avec ça. Et là, je vais sortir la phrase choc, Jérémy, dans mon temps.
Dans ton temps, toi, là.
Dans mon temps.
Ça, on va utiliser jadis, naguère.
Dans mon temps, il n'y avait pas de célébration quand le Canadien ratait les séries. Tout le monde se faisait mettre dehors, tout le monde était en tabarouette. La moitié du club était échangée au mois de juin.
Mais Richard, dans la nouvelle Ligue nationale de hockey, c'est complètement
c'est
différent.
Comme ça, 100%. Puis je comprends qu'il y a 32 clubs, il y en avait 21 dans le temps. Bon, je comprends tout ça. Mais j'ai de la misère avec ce bout-là. J'ai de la misère avec ce jovialisme. À savoir que, ben, c'est pas grave. Moi, je sais pas. Je trouve ça grave.
OK, c'est précis au moins.
Ben, OK.
C'est senti précis.
Quand je veux dire grave, je veux dire qu'il y a personne qui est mort, là, on s'entend là-dessus. Mais grave sur le plan sportif, okay. Je trouve ça grave.
OK, parfait.
Antoine... Canadien de Montréal n'est pas censé, Jérémy, se contenter des miettes. Tu sais, t'es pas les prédateurs, t'es pas les... Il y a plein de clubs que ça dérange pas.
On est en train de vivre un
trois
épisode.
Trois années de suite en plus.
Trois années de suite en plus.
On est en train de vivre un épisode de 110%. Richard, t'es allé trop à 110. Vraiment, c'est ça l'histoire.
Non, mais c'est vrai. Tu penses que les Yankees de New York, quand ils ratent les séries, ils disent, c'est pas grave.
Ça aussi, on entendait ça à 110.
Non, mais j'aime pas ouais. ça.
Ben, je comprends. Moi, il y a une réalité ça. Différente quand même. Je vais aller voir Antoine, lui, ce qu'il en pense. Antoine, est-ce que c'est des funérailles ou une célébration de la vie?
Ben, moi, je suis un petit peu entre, j'ai envie de dire entre les deux. Je suis triste, mais je comprends que le défunt voulait nous payer le bar ouvert. Parce que c'est un petit peu ça. Puis je me dis que c'est intéressant de voir comment le Canadien évolue. Puis il n'y a rien de facile. C'est pas à rebâtir une équipe. C'est pas aller chez IGA puis à faire son panier d'épicerie. Puis t'amènes à la maison puis tu fais ta recette. Puis c'est une réussite sur toute la ligne tout de suite. C'est pas aussi facile que ça. Ça prend un certain temps, puis chaque chose vient en son temps aussi. Il y a quelques semaines ou même l'année passée ou il y a deux ans, on voyait pas nécessairement Nico Suzuki tout de suite comme un centre de premier plan élite dans la Ligue nationale. Maintenant, c'est sans l'ombre d'un doute que c'est le cas. Donc, il y a une évolution. Donc, moi, je comprends le message qu'on nous fait passer. Je l'accepte aussi. Je sais que ça va être plus long. Je regarde des équipes qui sont dans le bas-fond de la Ligue nationale depuis plusieurs années et il y en a d'autres qui ont été capables de toucher au bas-fond et de se remonter parce qu'ils ont eu des bons choix au repêchage, ils ont bien repêché, ils ont bien choisi leurs éléments, puis ça leur a donné la chance de repartir vite vers le haut. Il y a des équipes qui se sont accrochées les pieds trop bas. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis un petit peu entre les deux. C'est correct, mais ça peut pas durer une éternité d'avoir ce sentiment-là.
Surtout
puis pour
c'est...
moi,
ouais.
Ben, je suis un peu, c'est rare, Richard, qu'on pense pareil, mais tu sais, faut le dire quand ça arrive. Oui. Je pense qu'Alexandre Pratt, il va être jaloux là, à ce moment-là. Mais je trouve que c'est correct de manquer les séries. J'adore la façon dont on finit la saison. On finit en lion bas des bonnes équipes. Hier, c'était pas évident. On a eu des bons et des moins bons moments dans le match. Mais au final, moi, je trouve que c'est vraiment positif. Il y a des joueurs qu'on a découverts qui vont devenir bons dans la Ligue nationale. Et au final, ça va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence.
Moi, ce que je trouve, les gars, puis Guillaume, je veux t'entendre là-dessus, c'est que j'ai l'impression, puis on était pour dire, est-ce qu'il y a amélioration comparativement à l'an passé? Je me souviens, Richard t'a dit, voilà, peut-être quelques semaines, tu disais, tu sais, ça sera le même nombre de points sensiblement, mais j'ai l'impression que les performances sur la glace vont venir teinter l'opinion de l'amélioration, entre guillemets, chez les Canadiens de Montréal. Ça veut dire, si on compétitionne, on s'est amélioré. Si on joue des mauvais matchs, on dit, c'est la même chose que l'an passé.
C'est le message de Martin Saint-Louis. Là. Souvent, nous l'a dit cette année. Il dit, ouais, on se faisait planter contre ces équipes-là. Puis okay. Maintenant, on est dedans.
OK, bon. Mais franchement, est-ce que ce club-là est meilleur que l'an passé?
Non. Pas dans le collectif. Le collectif,
je trouve que la compétition n'est pas meilleure.
Le club est meilleur individuellement parce que il y a des joueurs qui sont meilleurs que l'an passé. Slavkovski est bien meilleur. Je trouve que la fin de saison d'Armia. Si ce gars-là peut continuer de même en octobre, ça donne espoir. Tu as parlé, Guillaume, de Slavkovski. Les deux gardiens, je trouve, ont pris un pas en avant. Oui,
ça commence à parler d'équipe.
Là. Oui, mais c'est parce que le résultat au classement n'est pas là. T'sais, moi, honnêtement, cette année, je ne m'attendais pas à ce que le Canadien fasse les séries, mais je pensais à peu près 85 points. À peu près. Là, c'est 70 au moment où on se parle.
Mais c'est pas grave. T'sais, tant qu'elle est manquée les séries, tu es aussi bien. De la façon, le club a progressé. Au final, puis c'est ça qui est important, mais tant que t'as manqué les séries, t'es aussi bien d'être au fond du classement, puis d'avoir une chance d'être dans le boulier, puis de ramasser Celebrini. On n'a pas la même discussion en ce moment, les boys, si on sait que t'as pour une deuxième année de suite, en trois ans, t'as le deuxième choix au total, le premier. Ça change toute ta dynamique. Là, tu peux commencer à appuyer sur l'accélérateur. Là, tu peux continuer. Mais mettons que là, on a 85 points, puis on manque les séries par 10 points. Ça veut dire qu'on est au milieu de tableau. T'as pas le même joueur quand même que si t'es le premier overall et si t'es 15e. Donc, au final, l'amélioration est là. C'est positif. Puis je comprends ce que Martin Saint-Louis veut dire par ça. C'est vrai que c'est une célébration. Tout le monde s'est amélioré. T'as une meilleure équipe. L'année passée, tout le monde était blessé. Il y a juste des gars qui jouent même plus pour l'équipe. Donc, c'est positif. Mais tant qu'à manquer et bien jouer, t'es aussi bien de perdre encore un petit peu. Là, il reste 5-6 matchs. Laisser passer l'Arizona, laisser passer Ottawa, puis finir dans le bas-fond pour que l'année prochaine, boum, après ça, tu sois dans la course. Parce qu'au final, si t'as allé manquer, manque-les pour vrai.
Guillaume, est-ce que ce club-là joue du meilleur hockey cette année qu'il en jouait l'an passé?
Je pense que oui, ça oui, aucun doute. Puis c'est probablement en ce sens-là que Saint-Louis parlait d'une célébration de la vie, justement. Il y a une amélioration, il y a pas de doute. Je veux dire, en termes de points, premièrement, ça va être légèrement supérieur, pas énormément, mais légèrement supérieur. J'ai pas mis à jour mes calculs dernièrement, mais toute l'année, je tenais le compte là, des minutes jouées dans les matchs où le Canadien perdait par 3 buts ou plus. Et il y a une nette diminution de ce côté-là. D'ailleurs, le match d'hier va augmenter un petit peu ce chiffre-là, mais en général, le Canadien donc a mangé beaucoup moins de ses volets. En termes de différentiel de buts, le Canadien, quand la saison va prendre fin, aura marqué essentiellement le même nombre de buts que l'an dernier, mais va en avoir accordé quand même moins. Alors, tu sais, il y a des indicateurs comme ça qui laissent croire quand même que oui, il y a une certaine amélioration. Ça reste, par contre, que c'est une équipe qui partait de loin, alors s'améliorer quand tu partais d'une équipe qui jouait pour 400 l'an passé, ben ça te prend plusieurs pas d'amélioration avant de devenir une équipe qui aspire aux séries.
Et tu sais, Guillaume parle, est-ce que ça va être 2 ans, 3 ans? Tu as dit ça tantôt. C'est, honnêtement, ça serait vraiment beaucoup, là. T'sais, si tu rajoutes 3 ans encore de pas être compétitif, ça serait vraiment long. Mais moi, je pense que qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, on peut pas mettre la faute à Marc Bergevin parce que, regarde, il a vu une ouverture puis il est allé. Mais moi, je pense que le printemps 2021 a un peu faussé les données. On a surtaxé ce qui était en place. Écoute, en dernier, chez Weber, Carey Price, ça tenait avec du tape, là. Mais sauf que...
Mais en même temps, surtaxé, il y avait peut-être la conscience que ça
allait être la fin. Sauf que là, après ça, je pense qu'on n'a pas préparé cette suite-là. Mm-hmm. On savait, on se doutait que les deux piliers allaient partir. On a fait l'erreur, là, je ne veux pas revenir là-dessus, mais le troisième pilier de ce printemps-là s'est ramassé à Los Angeles. Je ne peux pas croire encore qu'on a laissé partir ce gars-là, mais regarde, c'est fait. Sauf que pour moi, les trois n'ont pas été remplacés. Ça a été de loin tes trois meilleurs joueurs ce printemps-là. Mm. Et là, ben quand tu perds des morceaux de même et tu ne les remplaces pas, c'est là que ça peut être long. T'sais, moi, je regarde du côté des Bruins de Boston qui, pour moi, sont un exemple de constance. C'est que souvent, quand tu perds les morceaux, tu les remplaces de manière adéquate. T'sais, les Bruins n'ont pas le même club qu'en 2013 quand ils se ramassent en finale, ni qu'en 2011 quand ils ont gagné. Mais ils sont encore là, en haut. Ils ont perdu du monde, les Bruins de Boston, mais ils ont remplacé. Puis souvent, pas avec des gars repêchés numéro 1 au total. Mm. Alors pour moi, je pense que la clé du succès vient de ça. C'est que quand tu perds les morceaux, faut que tu les remplaces. Le Canadien n'a pas été capable de faire ça.
C'est drôle parce que je suis en train d'imaginer si Philippe Danault était toujours avec le Canadien à un salaire de 5,4 millions par saison avec ses 12, 14, 16... but, 15 buts, Richard serait un des premiers pour dire « Ah, c'est un autre contrat qui est mauvais comme celui de Gallagher-Benderson. Merci, Marc Bergevin. »
Tu me mets des mots dans la bouche.
Non? Ah, OK.
Ça, c'est la pire affaire.
Hey, je veux juste revenir sur le match d'hier. On a vu dans le match d'hier Kucherov y aller d'une mise en échec sur Caden Goulet qui n'a pas fini la rencontre. Lui qui était la tête a frappé contre la baie vitrée. Est-ce que, puis là, je regardais encore aujourd'hui, il n'y a absolument rien là-dessus, mais est-ce qu'on devrait revoir cette mise en échec-là? Est-ce que vous avez trouvé que c'est une mise en échec légale? Je vais commencer avec Antoine.
Ben écoute, je pense que oui, mais c'est ça le problème un petit peu des défenseurs qui essaient toujours de rouler sur une mise en échec. À ce moment-là, ben ça peut être problématique et tu es toujours en train de te tourner puis tu fais toujours un petit peu frapper dans le dos. Donc c'est problématique et ben au final, les joueurs, ils veulent te ralentir, ils veulent ralentir ta progression parce que Kucherov, faut l'expliquer, s'il va pas au contact à ce moment-là, ben, Caden Goulet, c'est un assez bon patineur qui va passer, puis il va être en mesure de le dépasser et il va perdre son positionnement et ça peut créer des chances de marquer et éventuellement des buts. On voit beaucoup de défenseurs qui sont vraiment impliqués de manière offensive à avoir ce genre de comportement. Fais ta passe à l'autre défenseur, roule, pouf, pars en avant. On dit souvent des équipes que c'est le repli des défenseurs, c'est la simulation, c'est là que il faut qu'ils patinent vite par en avant et obtiennent, c'est vraiment ces sorties de zone là comme ça. Il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent comme ça.
Mais j'ai l'impression, excuse-moi Antoine, je vais te couper, mais j'ai l'impression que Goulet a juste changé la rondelle de côté. Fait que donc, il voulait faire une feinte pour s'en aller vers la gauche, changer la rondelle, l'envoyer à contresens, et ça a fait en sorte que là, il s'est mis dans une position où il était face à la
vitrine. Oui, mais il l'avait plus à la rondelle, là, c'est
puis
ça.
Puis il l'avait plus, il était parti, tu sais.
Ouais. Mais les gars, tu sais, il faut pas que vous oubliez que quand vous regardez les reprises, et la vitesse d'exécution. Quand tu regardes une reprise, tu te dis toujours, mais comment ça se fait qu'il l'a pas évité? Mais quand tu regardes la vitesse réelle, c'est pas aussi simple que ça. C'est la décision, hein. C'est des fractions de secondes, t'es en contrôle, tu finis ta mise en échec, puis on s'entend que Kucherov, c'est pas le gars le plus salaud au monde non plus, là. Tu sais, je pense qu'il est jamais dans des situations de la sorte.
Ouais. Antoine vient de dire terminer sa mise en échec. Puis justement, c'est exactement ce que je voulais apporter comme argument. Il y a à peu près 12 ans, j'étais à une réunion des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey. C'était en 2011-2012 à peu près. C'est dans le temps de Pacioretty, le coup de Chara, ici au Centre-Bell. Dans les semaines après ça. Et on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on fait avec cette définition-là de finir sa mise en échec. Une des choses, on disait, si le joueur adverse frappe un gars dont il est capable de lire le nom dans le dos, faut que ça soit illégal. On a commencé à penser à ça, à trouver des façons de rendre ça illégal. Finalement, c'est pas aller plus loin. Mais regardez un petit peu ce qu'on a fait au football américain par rapport avec ça. Là, je sais qu'ils sont pas sur de la glace, ils sont pas sur patin, c'est moins vite. Mais ce qu'on appelle en anglais le late hit sur le joueur qui a plus de ballon, entre autres le carrière, c'est 15 verges automatiques. Et là, puis les joueurs en défense détestent ce règlement parce qu'ils disent « Hey, je peux pas breaker sur un 10 cents, je rentre sur le carrière, il lance la balle, une seconde, paf, je le frappe, j'ai 15 verges. » Oui, mais c'est ça le règlement. Et je pense qu'hier, c'est un peu, jeudi soir au Centre Bell, c'est un petit peu ce qu'on tentait de faire au hockey. Le late hit, c'est-à-dire que le joueur n'a plus la rondelle, dans ce cas-ci, Goulet. Mais là, l'autre complète sa mise en échec, comme on lui a montré de faire depuis qu'il y a 15 ans. Sauf que là, lui, il n'a plus la rondelle. T'as un joueur qui est en position, qui est sans défense, si on veut. Et moi, je trouve ça très dangereux. On espère que Goulet va être correct. Mais compléter ta mise en échec contre un gars qui n'a plus la rondelle, pour moi, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le late hit au football américain, qui est devenu illégal.
Mais dans les arbitres accordent quand même un certain délai, justement à cause de la vitesse du jeu, tout ça. Donc, quand tu regardes le jeu, je dis oui, quand tu le vois au ralenti, tu dis OK, il aurait peut-être pu s'arrêter, mais ça reste qu'à vitesse réelle, ça se passe vite. Goulet envoie la rondelle par en arrière, Kucherov va déjà pris son élan à ce moment-là. Donc, tu sais, c'est quand même difficile d'arrêter. Le point de contact, c'est pas...
Oui, vas-y. Excuse-moi, Guillaume, pardon.
J'allais juste ajouter le point de contact, c'est pas la tête. Goulet est pas à une distance dangereuse de la bande. Donc, pour ça, je veux dire, c'est une mise en échec douloureuse, il n'y a aucun doute. Mais est-ce que ça mérite d'être revu par la Ligue nationale? Je suis pas convaincu.
Antoine, tu voulais ajouter?
Moi non plus, je voulais ajouter que t'as une responsabilité aussi en tant que joueur. Tu peux pas, c'est un peu comme des... Puis là, je sais que ça va faire monter dans les rideaux Richard quand
oui,
je suis déjà
monté. Là.
T'es déjà accroché, c'est parfait, j'aime ça. Mais quand t'es embarqué sur la glace, c'est un petit peu comme t'embarques sur un ring de boxe. Tu faut que tu sois prêt à n'importe quoi. Tu peux pas arriver puis penser que tu fais du patinage artistique. Puis je dénigre pas le patinage artistique quand je dis ça, mais il y a juste pas de contact à ce moment-là. C'est ce que je veux dire. Quand tu es sur la glace, il faut que tu sois mentalement prêt à dire je peux me faire frapper de n'importe où. Je peux pas avoir des moments où j'assume que je vais être correct. Surtout quand tu viens de te débarrasser de la rondelle. Puis souvent on voit des mises en échec, des gars qui ils font leur passe, ils suivent leur passe du regard. Et là, ils pensent qu'ils pourraient jamais se faire frapper. Ça arrive qu'il y en a qui se font frapper. C'est pas légal. Mais en tant que joueur, il faut quand même que tu sois prêt pour ça. Parce que si tu te fais frapper et que tu es blessé pendant 4, 5, 6 semaines, ben c'est du temps que toi, t'as pas pour te faire valoir puis encore assurer la longévité de ta carrière. Fait que oui, des fois, tu te fais frapper, c'est pas légal, mais il faut quand même que tu sois conscient de cet aspect-là, que faut que tu sois prêt à n'importe quoi. C'est comme quand tu rentres où il y a une petite échauffourée. Pour moi, quand tu rentres dans une échauffourée, puis Richard, là, ça boule, une cocotte minute, ça s'en vient. Mais c'est... mais
c'est encore des rideaux.
C'est correct, ça. Mais quand tu rentres dans une échauffourée, la première chose que tu devrais faire, c'est lâcher ton bâton pour être prêt. Tu sais, il faut quand même que tu sois capable de t'agripper à quelqu'un. On sait jamais. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Puis ben, vous allez dire, Antoine, t'es vieille école de penser le même. Oui, mais non. Les playoffs, ça s'en vient. Puis généralement, le sifflet, il est un petit peu plus long à sortir. Donc, c'est une mentalité que je pense que les jeunes ont perdu un petit peu. Puis le hockey s'est beaucoup amélioré. Ça joue mieux. Mais c'est vraiment important de pas oublier ça parce que tu peux te blesser à long terme, puis on sait jamais qu'est-ce qui... Ben, on espère que Goulet sera pas blessé à long terme.
Mais sachant tout ça...
C'est pas possible.
Et sachant tout ça, moi, j'ai été très surpris de constater qu'il y a personne qui est parti après Kucherov.
Ça... Ouais. Ben ça je suis quand même d'accord avec toi, par contre, parce que sans être une mise en échec nécessairement illégale, ça reste que
c'était une mise en échec
puissante sur un joueur. T'es pas obligé d'aller te battre, là, pas du tout, mais c'est sûr que oui, aller voir Kucherov,
m'amène à l'autre sujet que je voulais vous parler, c'est que au courant des derniers matchs, outre ce geste-là de Kucherov sur Goulet, il y a eu beaucoup d'échauffourées à l'entour du filet adverse, à l'entour du filet du Canadien, dans les arrêts de jeu, le festival du lavage de visage avec le gant de hockey, ça se tiraille à gauche et à droite. Il y a eu des pénalités. Dans le match d'hier, c'est 6 pénalités pour le Canadien, dont 2 buts en avantage numérique du Lightning de Tampa Bay dans le match de jeudi, pardon. Là, j'ai l'impression qu'on joue le team toughness. Là, tout le monde est prêt, on y va, Jacky est là, tout le monde brasse, on se brasse le pompon. Est-ce que le Canadien se sort de sa game en jouant comme ça, Richard?
Ben, il faut pas. C'est parce que le problème avec ça, c'est que la ligne est très mince entre le team toughness, je sais pas comment le traduire d'ailleurs, la dureté de l'équipe.
La robustesse, ouais, la robustesse d'équipe.
Et l'indiscipline. C'est que la ligne est très mince. Parce que là, tu veux être le club, je pense, qui se laisse pas piler ses pieds. Ça, c'est bien correct. Mais tu veux pas non plus tomber dans, OK, on leur donne 7 powerplays par match parce qu'on n'est pas capable de se contrôler. C'est le problème un petit peu avec les clubs qui se cherchent. Et puis là, le Canadien, évidemment, est un club qui cherche une identité. On est en train de bâtir quelque chose. Mais on est quoi exactement? On sait pas encore. On est en train de travailler là-dessus, mais on ne le sait pas encore. Alors, la ligne est très mince. Tu veux pas te ramasser. Tu sais, le Canadien, on parle du 4 contre 5 qui est très bon. Bon, bravo. Mais en même temps, si tu passes...
Tu peux pas faire ça avec Tampa Bay.
En particulier.
C'est impossible.
En particulier. Tu.
Guillaume, est-ce qu'on sort du match un peu?
Mais je trouve pas que... Tu sais, oui, il y a des débordements, mais je vois pas nécessairement de l'indiscipline dans cet aspect-là. Tu sais, quand on regarde les pénalités d'hier, par exemple, oui, il y a eu la mêlée au début, j'ai pas trop compris. Ça a été quoi l'étincelle qui a fait en sorte que Jaden Schoeball
Il y a eu de l'indiscipline, Goulet avec le bâton, là, depuis de banc, là.
Oui, c'est ça. Mais moi, je parle spécifiquement dans le match d'hier. Donc, tu sais, il y a eu cette séquence-là qui a donné un avantage numérique au Lightning. Mais tu sais, après ça, Matheson, des pénalités pour avoir fait trébucher. Tu sais, c'est pas ce que j'appelle une équipe qui sort de son match. Schoeball, le 4 minutes pour bâton élevé, il a fallu que les arbitres aillent à reprise pour le revoir. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement de l'indiscipline dans ce sens-là. Puis ce qui est arrivé à la fin avec Jacky, je pense que c'est simplement Jacky qui a été victime de sa réputation. C'est-à-dire que Mikey et Simon a vu deux joueurs du Lightning par terre, a vu Jacky autour et a fait 1+1 sans nécessairement avoir vu les reprises que nous, on a vues à la maison. Tu sais, donc,
les gars, faut lui donner le crédit pareil à ce gars-là. Ça t'en prend un sacré goût de courage pour sauter sur Jacky de même pareil. je sais pas si... c'est le fait que Jacky se soit un peu plus calmé, puis j'ai l'impression que, tu sais, au début de saison, là, il avait mis la table pour l'année, puis la réputation a été déjà faite depuis l'année dernière, mais il reste que depuis un certain temps, tu sais, il a levé le pied aussi sur ce niveau-là.
Il choisit ses moments.
Ses moments, bien évidemment, puis on a dû lui parler à ce niveau-là, puis c'est tant mieux comme ça, mais j'ai été vraiment surpris qu'il se fasse sauter dessus, puis j'aurais aimé ça que la réaction soit un petit peu plus démesurée par la suite. Parce que tu peux pas accepter de te faire sauter dessus par un petit joueur puis qui finisse au-dessus de toi. C'est pas acceptable. Quand t'as cette réputation-là, c'est un jeu de rôle un peu aussi, là. Tu peux pas, un petit bonhomme, là, comme Essayman, tout le monde va voir ça dans la ligue, tu peux pas te faire dire, hey,
puis il l'a pris par surprise, puis après ça, je pense que Martin Saint-Louis, il se garde calme-toi, puis puis il restait pas beaucoup de temps.
Il restait 7 minutes,
le Canadien était en train de revenir, alors tu sais, je pense que Martin Saint-Louis a dû dire à Jacky.
Il fait preuve de maturité. Bon, laissons la violence de côté, on y reviendra d'ailleurs dans le deuxième bloc, si vous êtes avide.
Antoine est là, on va en profiter pour faire une heure de violence.
Antoine, Antoine.
Mais on ne fait pas que je... La dentelle, Richard.
Oh oui, définitivement. Bon, OK. Les gars, Joël Armiette en nomination pour le trophée Bill Masterton pour le Canadien de Montréal. Lui qui a effectué tout un retour, cédé 2 fois dans les mineurs. Hier, marque 2 fois, 15 et 16 pour lui.
Seulement en carrière? Égal.
Écoute, il joue du gros hockey. Hey, encore une fois, absolument, il est constant. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi constant de façon aussi longue. T'sais, c'est une période qui dure et qui perdure.
Depuis le retour des fêtes, il est un des meilleurs joueurs du Canadien.
Mmh. C'est ça, quand c'est... même fou qu'on ouais. dise sur ce balado, Joël Armia est un des meilleurs joueurs du Canadien.
Ben, tu sais, oui puis non. Je veux dire, souvenez-vous, là, c'est parce que le problème, tu l'as dit, tu as parlé de constance, puis on l'a pas vu souvent. On n'a pas vu cette version-là de Joël Armia très souvent à Montréal. Mais il y a une raison pourquoi les Sabres de Buffalo l'ont pris au premier tour. Là. C'est pas des caves. Là. À un moment donné, t'as vu ce gars-là et t'as dit ah, wow, ce gars-là va relancer notre club. Et on est en train de voir, il y a quoi, 30 ans, je pense? On est en train de voir à 30 ans le joueur qui était supposé être quand il a été un choix de premier tour en 2011. Tu vas me dire, ça a été long. il y a des joueurs qui mettent beaucoup de temps à être là.
Il a eu le temps de maturer.
Oui, ouais. Oui, mais écoute, je le sais pas. Mais la grande question maintenant, c'est est-ce que en octobre, le Canadien va revoir cette version-là? Puis en novembre, puis en décembre.
Mais en fait, ce qui fait en sorte, moi, ce qui me laisse croire que ça peut être plus durable, c'est que cette fois-ci, c'est que justement, il y a de la constance. Armia, depuis qu'il est arrivé à Montréal, il y a eu deux bonnes séquences. Deux moments là, où vraiment, il donnait du bon hockey. C'est-à-dire, c'était au début de sa deuxième saison, 19-20, où il s'était blessé au fait. Et au moment de se blesser, justement, il avait été un des bons attaquants du Canadien dans le premier tiers de l'année, plus ou moins. L'autre moment, c'était dans les séries de 2021.
C'est
on
vrai,
s'en souvient,
ouais,
le trio avec Stahl, bon, ouais. Avec Eric Stahl, Corey Perry. Mais c'est ça, c'est des moments qui avaient quand même pas duré longtemps. Tandis que là, on parle d'une bonne demi-saison de bon hockey. Puis à travers cette demi-saison-là, j'ai pas le souvenir de match qu'on regardait et on se disait, mon Dieu, à soir, ça y tente pas. Et revoici le Armia de l'an passé. Ouais. Tu sais, il y a vraiment.
Mais tu sais quoi, j'ai jamais pensé que ça y tentait pas. J'ai toujours non, mais, pensé, tu sais, paresse.
Mais tu vois que son implication mentale.
Non, mais c'est
par
ça, c'est quand ça allait pas par le passé, je dis pas que ça
il s'enfonçait.
Pas, mais il ça projetait parfois cette
image-là. C'est qu'il baissait les bras.
Ouais. Et là, c'est pas le cas du tout. Mm. Et tu sais, on n'arrête pas de parler que le Canadien, doit trouver de la production secondaire, tout ça. Et c'est ce que Armia a donné. C'est ce qui fait en sorte que, l'an prochain, si, tu sais, peu importe comment les trios seront faits, si le Canadien retrouve ce même Armia-là, ben, c'est quand même un bon point de départ pour avoir un autre trio derrière celui de Suzuki.
Ah, il y a 4 contre 5, là. C'est
en désavantage.
C'est meilleur de l'équipe.
Je veux savoir, Antoine, est-ce que tu l'as déjà affronté, Armia, puis quel genre de joueur c'est sa patinoire si tu l'as affronté?
C'est un joueur qui est quand même qui est imposant, qui n'est pas facilement tassable quand on le met en mise en échec. Pour moi, j'ai toujours trouvé il passait sous le radar, mais il jouait bien. Puis des fois, comme on le voit, il pouvait avoir des gros matchs, puis des fois des moins bons matchs. Et écoute, c'est un choix de première ronde. On le regardait toujours avec une petite aura au début, mais ça s'est quand même estompé. Mais il a montré que c'était quand même un joueur de la Ligue nationale quand il est constant.
Clairement. Et là, il y aura le défi à savoir, on va comparer les dossiers de Joël Armia, puis il y en a un autre. J'imagine, je pense que Drouin a été nommé au match.
Exact. Et oui, c'est le candidat de l'Avalanche.
51 points, Drouin.
Ouais, ouais. D'ailleurs, je voulais faire ça aujourd'hui. J'ai pas pris le temps de le faire encore parce que ça, c'est les journalistes de l'écrit qui votent pour ça. J'ai comme l'impression que Jonathan Drouin va être dans mon top 3 de la Ligue nationale.
Armia, tu sais, il définit, si tu regardes la liste là, des critères pour Guy Masterton, il définit exactement ça. Le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup de journalistes qui votent pour le meilleur retour de blessure.
L'histoire humaine.
Non, mais plus de blessure.
Ouais,
souvent, c'est un gars qui s'est blessé, mettons.
Ouais. L'histoire humaine est là aussi pour Drouin. Il a raté des matchs quand même importants.
Ouais, mais c'est pas le trophée Masterton n'est pas supposé être le meilleur retour.
C'est ça, ben tu sais, comme quand Max Pacioretty l'avait gagné, tu sais, je pense que ça avait été un peu ça, tu sais, c'était vu comme le retour de l'année à ce moment-là, parce que c'était la saison après son incident avec Chara. Mais c'est ça, mais dans le cadre de Drouin, par contre, c'est ça, lui, c'est pas ça, c'est-à-dire il avait été en santé l'an passé, donc lui, c'est vraiment juste quelqu'un qui s'est repris en main, qui s'est retrouvé dans des bonnes conditions, puis qui a réussi, donc ça va être difficile d'écarter Drouin du bulletin. Armia n'y sera pas, mais pour ce qui est des Canadiens, des joueurs du Canadien, moi, il y a eu mon vote de première place quand même.
Antoine Drouin, qui connaît du succès avec l'Avalanche du Colorado, tu l'as souvent dit, des fois, c'est bon de sortir de Montréal. Lui qui serait présentement avec 51 points, le quatrième meilleur pointeur du Canadien.
Il jouerait pas que le même monde.
Ouais, c'est un peu différent. Mais écoute, Antoine, ça fait du bien un peu d'air frais une fois de temps en temps?
Ah, c'est officiel. Je suis tellement content pour lui. Je pense que, tu sais, il a, ça prend une grosse dose de courage quand ton équipe est en séries éliminatoires, se range en Coupe Stanley, puis de pas faire partie de l'aventure, de choisir de pas faire partie de l'aventure, ça prend. Puis ça montre aussi à quel point ça devait être difficile. Ça devait être difficile à gérer. Il devait avoir, il devait vivre dans un environnement qui était néfaste pour lui. Puis au final, ben c'est là qu'on le voit que des fois sortir et changer d'environnement, ça peut être ultra bénéfique pour des joueurs. Puis lui en fait partie. Puis je suis content parce que maintenant il peut l'apprécier encore davantage. Parce que c'est une chose arriver dans la Ligue nationale, puis être un gros espoir. On met beaucoup d'attentes. Tu ramasses ton gros contrat quasiment direct en partant. Mais après ça, tu t'assieds un petit peu sur ses lauriers. Je pense que malgré lui, c'est un petit peu ça qu'il a fait. Puis tu peux pas faire ça à Montréal. Et au final, ben quand la roue a décidé de tourner à Montréal, ben c'est pas trop long que tu fais plus partie de la faveur populaire, et ça peut être néfaste à gérer au quotidien, surtout quand c'est ton milieu de vie en tant que jeune Québécois. Ben au final, je pense que quand tu arrives à faire un retour à zéro, de reprendre une opportunité ailleurs, c'est là que tu peux rebondir, puis encore plus apprécier le moment présent, puis le fait que jouer dans la Ligue nationale, c'est un privilège, puis je pense qu'il s'en rend compte, puis c'est pour ça que, puis je le regarde jouer souvent, je trouve c'est pas le même joueur qu'on avait à Montréal, il est dynamique, il a l'air d'aimer la vie, il a l'air d'aimer le hockey, ça se voit, des fois, souvent, il y a le sourire au bout des lèvres, ça paraît, ça, puis ça a affecté son rendement à Montréal, c'est officiel. Puis de le voir avoir du succès, je suis tellement content pour lui. Sans faire, c'est un très bel accomplissement. Puis chapeau à Colorado qui lui a donné la chance, parce que un, ils avaient besoin d'un joueur comme lui. Puis deux, il coûte pas trop cher pour cette année, donc ils ont une belle opportunité de se lancer en série éliminatoire. Et qui sait, avec deux gars qui ont déjà gagné tout dans le junior majeur, qu'est-ce qui pourrait réarriver? C'est une histoire digne d'Hollywood.
Ben écoute, c'est beau, c'est une belle histoire, c'est humain. On lui souhaite le plus grand succès possible avec l'Avalanche du Colorado. On pense à lui, mais on va faire une pause pour retour. On parle de bataille! Ça fait, là, ça fait d'être humain, là. Hey, les Rangers, Devils, tout le monde s'est battu. Ouh, bagarre générale, il me semble que c'est deux mains qui se vident, mais bref, aujourd'hui, dans la nouvelle Ligue nationale, c'était ça, une bagarre générale. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone saison 5, épisode 51 avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé et Antoine Roussel. Les gars, je vois passer sur mon téléphone, j'étais pas à l'affût, et je vois passer sur mon téléphone, bagarre générale entre les Rangers et les Devils. Et là, je fais, hein, bagarre générale, qu'est-ce que c'est? Les bancs sont vidés, ça arrive encore.
Ça se peut plus.
C'est voyant, non, c'est impossible. Et non, ce sont les gars sur la patinoire qui se sont coltaillés. C'était le Festival de la Mornif. Matt Rempe était là.
Deuxième épisode de suite avec le mot coltaillé.
Coltaillé, ah ouais, merci. C'est le mot du jour.
C'est le mot de la semaine.
Tu sais que la Ligue nationale de hockey, après la foire de 87 au printemps entre les Flyers et les Canadiens,
oui,
a passé un règlement. Donc, il n'y en a plus là, de bagarre générale, parce que si tu es sur le banc et que t'enjambes la bande, tu t'envoies ça à glace. C'est une très, très, très longue suspension, donc il n'y en a plus.
OK, tout le monde s'est battu sur la patinoire. C'était suite au coup de coude de Matt Rempe à un joueur des Devils. Par la suite, un joueur des Devils voulait aller voir Rempe pour se battre. Rempe s'est pas battu. En plus, s'est fait éjecter du match, s'est fait sortir de la rencontre, a fait des petits babayes. Ça, on a trouvé ça insultant. Donc, c'était le match retour de tout ça. Là, ce qui est arrivé, c'est que Travis Green blâme Peter Laviolette pour l'alignement qu'il a mis. Laviolette dit, voyons donc, t'as pas à faire ça. Et là, tout le monde s'est battu. En fait, s'il y en a 8 qui se sont battus, ça veut dire qu'il y en a 2 qui se sont pas battus dans le groupe de 5 qui était sur la patinoire. À qui la faute? Est-ce qu'on la donne à Travis Green? Est-ce qu'on la donne à Peter Laviolette? On la donne à quelqu'un d'autre? Guillaume, à qui la faute? Est-ce qu'il y a une faute?
Ben, c'est ça. En fait, c'est au-delà des joueurs eux-mêmes. Je ne sais pas, parce que McDermid et Rempe se battent, c'était prévisible. Je dis pas que c'est correct ou rien, mais c'était à prévoir, c'était sûr que ça allait arriver. On connaît le hockey, on sait comment ça marche depuis des années. Ça allait se passer de toute façon. Les Devils, le match était à New York, donc les Devils doivent en premier désigner les joueurs qui commencent le match. Alors, ils choisissent McDermott. On le sait, McDermott, il est là pour se battre. Là. C'est son, je veux dire, c'est pas un joueur qui joue beaucoup de minutes ou rien.
Attends,
alors,
c'est pas son... un défenseur. Attends, c'est un défenseur.
C'est un défenseur converti attaquant.
OK, parce que là, il part sous l'aile. Là.
Ouais, non, c'est ça, mais il joue les deux positions. Les deux, mais cette année, il a plus joué à l'attaque.
OK.
Donc c'est ça. Donc, bref, lui est désigné. En même temps, si t'es les Devils et tu dis, OK, si je mets pas McDermott et que lui met Rempe, que Rempe décide de faire son show, ben, je veux que McDermott soit là. Alors, tu sais, je veux dire, il y a cette espèce d'inconnu-là, je pense, d'un bord et de l'autre, là, qui fait en sorte que ça va. Le problème dans tout ça, c'est que ça aurait pu simplement être McDermott et Rempe qui se battent. Ça avait pas besoin de virer en bataille générale comme dans Slapshot.
Mais Rempe n'a pas eu 4 matchs de suspension pour son coup.
Mais aussi en plus.
Est-ce qu'il avait besoin de se battre après ça?
Ben, c'est ça. Ça, c'est le bout du code que
parce que Travis Green a dit ouvertement, ouais, en point de presse après, si c'était battu contre McDermott, on n'en parlerait plus.
C'est ça.
Mais il y a eu 4 matchs de suspension. C'est pourquoi il a se battre en plus?
Il y a eu sa sanction, mais bon, c'est le code. Mais dans tous les cas, ça reste que c'est ça. Ça aurait pu être simplement ces deux-là. Je comprends pas pourquoi les deux clubs au complet.
On va demander à Antoine de nous expliquer ça.
Antoine, explique-nous, comment tu vois ça, toi?
Personnellement, comment je vois ça, c'est que tu sais que ça allait se battre probablement. Donc le coach à domicile, ben sur la route, il a voulu mettre son joueur qui pensait que il allait se battre. Puis de l'autre côté, l'autre entraîneur, il a vu ça et s'est dit bon, ben je ne voudrais pas commencer avec mes meilleurs joueurs d'un coup que ça dégénère, d'un coup qui arrive ce qui est arrivé. Et donc là, généralement, t'as des joueurs qui sont, je vais pas dire qu'ils prônent un petit peu plus ça, mais t'as des joueurs qui ont pas peur nécessairement de ce genre de situation là. Puis ça commence avec un gars qui dit hey, on y va-tu nous autres aussi, on y va-tu. Puis là finalement, ben l'effet d'entraînement, tout le monde y va. Je pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé, mais c'est clair que le coach vraiment qui a peut-être initié ça, ben c'est vraiment le coach des Rangers, parce que à ce moment-là, c'est lui qui avait le dernier mot. Il a mis ses joueurs qui pouvaient plus brasser aussi. Fait que il s'est peut-être emporté un petit peu, mais j'ai pas eu cette situation-là. Mais c'est pas le genre de situation nécessairement que tu veux voir à tous les matchs. C'est cocasse une fois de temps en temps, mais je trouve pas que ça fait une belle Je trouve pas que c'est parfait pour le hockey nécessairement.
Je sais pas si c'est cocasse, parce que moi, ça me fait penser à une autre affaire. Là, tu sais, tu viens de parler du fait que, bon, il y a une suspension. Donc, la dette, techniquement, est payée parce qu'il a payé de 4 matchs dans ce cas-ci. Donc, 4 matchs sans salaire. Même affaire qui est arrivée à Paul Byron et Mackenzie Weegar, il rentre dans le dos. Paul Byron est suspendu. Suspendu 3 matchs. Mais la fois d'après...
Ça se paye pas de même une
dette. Ben, c'est ça.
Ça se paye pas. Pour les joueurs, malheureusement, ça se paye pas comme ça.
Et là, qu'est-ce qui est arrivé?
Je pense que quand il y a de l'animosité, là, elle est là.
Ouais. Puis, mais là, qu'est-ce qui est arrivé, Antoine, ce soir-là? Ça a mis fin, effectivement, à la carrière de Paul Byron.
Okay.
Parce que, tu sais, là, t'as un gars de 40 livres de plus que toi. Puis c'était niaiseux ce que Byron a fait. Il n'y a pas d'affaire à faire ça. OK? Sauf que là, t'as un gars de 40 livres de plus que toi qui dit, hey, non, toi.
Ben, ce qui était plus niaiseux dans le cas de Byron, c'est qu'il a décidé de se battre. Il aurait pu juste se coller. Ouais, puis il n'y aurait pas eu de trouble.
Tu vas dire qu'il aurait pu faire de la lutte avec. Mais
non, mais tu te colles, puis t'évites. Là, il a essayé d'y aller au point avec lui.
Il a mangé un sac. Aussi, t'sais, à un moment donné, tu sais que quand tu vas jouer, tu sais que ça va brasser, tu t'organises pour mettre un peu de tape sur ta jugulaire pour pas qu'elle s'arrache, puis tu gardes ton casque un petit peu plus longtemps, puis tu le serres un petit peu plus aussi, puis quand tu pognes des plus gros, tu t'accroches. Tu sais, je veux dire, Paul Byron, il a connu le vieux hockey aussi, mais ça lui est pas arrivé souvent, mais il y en a vu d'autres, là. Puis, tu sais, des fois, faut qu'on tu comprennes un peu, puis ça revient à ce que je disais. Faut que tu sois prêt à tout, puis tu peux pas penser que la Ligue va juste te protéger. La Ligue va protéger par la suite, mais dans le moment présent, elle te protégera pas. Ce qui est arrivé, comme tu l'as décrit.
C'est drôle, parce que on est assez confortable entre nous. Je vous ai lâché, il y en a mangé un, ça suce.
Oui, c'est parfait. Hein? Mais moi, la seule chose...
C'est ça, le podcast, hein? C'est quatre chums
qui prennent
un petit boblé ensemble et qui jasent le hockey.
Qu'est-ce que tu veux dire,
la seule chose que j'allais ajouter, c'était que les arbitres là-dedans, par contre, méritent quand même des félicitations. Et les arbitres, c'était Jean Hébert et Gord Dwyer. Ils ont mis tout le monde dehors. Puis ça, franchement, c'était
ils n'ont pas le choix, les gars.
Parce
que les deux premiers qui se battent, eux, ne sont pas problématiques, mais... Quand les autres qui se battent par la suite, à moins que, tu sais, ça soit En fait, c'est pas à moins que, c'est dans le règlement. S'il y en a d'autres, tu les sors parce que c'est le règlement. Ils ont juste appliqué les règles.
T'as perdu des bons joueurs, t'as perdu Trouba, Keandre Miller, exact. T'avais deux défenseurs là-dedans.
Les deux équipes ont dû jouer à quatre défenseurs, puis même John Marino de l'autre côté qui joue des grosses minutes pour les Devils. Des Devils qui sont dans la lutte, qui essayaient de rester dans la lutte pour les séries, là, ça arrivera pas. Donc, là-dessus, mais en tout cas, ça reste que c'est au moins il y a eu ça. Donc, les coachs ont dû, après ça, se démener avec les conséquences de tout ça.
J'amène un autre aspect, puis on va faire ça rapidement, on passera pas 4 heures de temps à la bagarre, malgré que c'est intéressant quand même. mais ce que je veux dire, c'est que, encore là, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur la planète hockey.
Oui, oui.
Beaucoup d'hypocrisie, de la misère avec ce mot-là.
Je m'en allais là.
Parce que on est les premiers à dire... j'entendais un commentaire de François Gagnon sur les ondes d'RDS qui disait, tu sais, vous dites aux joueurs, si tu perds ton casque durant le match, il faut que tu t'en ailles au banc absolument. Si tu joues sans casque, ça sera une pénalité contre toi. Sauf que tout le monde peut se taper sur la marboulette sans aucun problème et on dit pas que c'est des coups à la tête. On dit, personne ne veut dire publiquement qu'on est pro les bagarres, qu'on aime ça quand ça brasse, que l'assistance aime ça, les bagarres. Personne ne veut dire ça parce qu'on dit tout, on est en train d'éliminer ça de notre sport.
Ce qui est pas vrai.
Pendant ce temps-là, sur le réseau, je pense que c'est TNT. Pendant ce temps-là, t'as Henrik Lundqvist et Anson Carter qui sont là comme analystes du match et on les voit pendant que ça se passe. Écoute, je pense qu'il avait le goût d'embarquer sa glace pour aller se battre. En fait, la vraie nature de ce sport-là, selon la Ligue nationale de hockey, c'est ce qu'on a vu là. La vraie nature, et je comprends pas pourquoi qu'on fait l'hypocrite comme ça.
Ben non, mais c'est la Ligue qui est hypocrite là-dedans, Jérémy, parce que d'un bord, la Ligue tolère et pratiquement encourage ça, parce que si tu voulais éliminer ça, c'est facile. Tu drops tes gants, t'es dehors de la game.
Fini.
Ça fait 60 ans qu'on connaît la façon d'arrêter ça, puis on le fait pas. Donc, d'un bord, on encourage ça. D'un autre bord, la Ligue aime pas avoir cette image-là. La Ligue ne veut pas promouvoir ça. Nous, en tant que journalistes, les rares fois qu'on appelle la Ligue pour dire « Hey, avez-vous des statistiques, ces bagarres? » Non, on n'a pas ça. Non, on tient pas ça. Non, on parle pas de... Ben, y a-t-il moyen de parler à quelqu'un dans la Ligue? Non, y a personne de disponible. On ne veut pas en parler. Souvenez-vous du tollé de John Scott en 2016 qui s'en va au match des étoiles. Gary Bettman était hors de lui. Ah, ben là, on va changer le règlement, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi, Gary? Tout le monde aime John Scott. Vous avez fait de John Scott une vedette. Vous avez permis à John Scott de devenir John Scott. Pourquoi est-ce que tu t'offusques soudainement que des partisans votent pour John Scott au match des étoiles? C'est quoi le problème? Tu vois l'hypocrisie? Moi, c'est ça que je déteste là-dedans. Soit que t'embarques à 100%, tu dis, OK, regarde, c'est toléré, on aime ça. Let's go, tout le monde, on fait la première session dans ça. Ou soit que tu dis, une bataille, t'es dehors de la game, mais tu peux pas jouer ces deux tableaux. Ça, c'est de l'hypocrisie.
Est-ce que tu veux une belle preuve d'hypocrisie? D'ailleurs, sur NHL.com, le compte-rendu du match fait par c'est Dan Rosen, qui est journaliste pour NHL.com, et le titre, Chris Kreider brise l'égalité en troisième période, les Rangers battent les Devils pour augmenter leur avance. Et la bataille vient au 9e paragraphe du texte.
Et dans l'extrait vidéo, je pense qu'on le montre pas. Hein? Je pense que dans l'extrait vidéo de la Ligue, on le montre pas.
Surpris, la Ligue montre très, très peu de vidéos de bagarre comme ça. Donc, avant même que la bataille soit mentionnée, c'est une citation d'entraîneur qui dit « Ah, mais là, on joue à quatre défenseurs, puis on a des joueurs qui sont pas habitués d'écouler les pénalités. Pourquoi vous jouez à quatre défenseurs déjà? »
Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est drôle, hein? Pendant ce temps-là, où tout le monde célèbre les combats, puis tu sais, écoute, Antoine, c'est la même chose. Moi, tu sais, dans mon époque, c'est dans les années 90, c'était des Scott Stevens, c'était comme ça quand moi j'ai joué au hockey. J'ai pas joué dans la Ligue nationale, Antoine, mais il y avait de la bagarre, ça faisait partie du jeu, puis il y a personne qui s'en cachait. Maintenant, tout le monde va être plus blanc que blanc, dire qu'on est parfait quand c'est pas le cas. Puis, on passe par-dessus, écoute, c'est quoi, puis encore là, clin d'œil, chapeau à Alain Crête qui disait, tu sais, la semaine passée, on pleurait le décès de Chris Simon.
Mm-hmm. Exactement.
Tu sais, puis l'autre semaine d'après, on est là, all right, une vraie bagarre générale. Ouais. Quand c'est pas ça, mais c'est même pas proche.
Absolument. Juste pour préciser en passant, ce que je disais là sur l'article, c'était pas une flèche contre Dan Rosen ou rien, là, c'est pas...
C'est simplement ça,
exactement, j'ai absolument aucun...
Comme ça qu'on l'avait compris.
Ça fait partie de c'est ça l'hypocrisie de tout ça, par contre. Puis tu sais, moi, je me souviens d'avoir parlé à Chris Neal juste avant qu'il se retire des coups à la tête puis tout ça. Puis Chris Neal était tellement dans le déni. Genre, on ne sait pas, puis on n'a aucune idée de ça, puis on verra plus tard, puis là, je penserai pas à ça, puis c'est correct, là. Mais il faut arrêter d'être dans le déni, parce que là, tu as parlé de Chris Simon, Jérémy, mais il y en a combien d'autres là avant lui?
Oh,
là?
Bogart.
Et... puis ça, c'est sans compter ceux qui sont encore parmi nous, mais qui ont peut-être pas toutes leurs facultés. Et ça, c'est d'une tristesse incroyable. Je pense qu'Antoine a dû connaître, comment il s'appelait, Carcillo, qui a joué avec les...
Dan Carcillo,
qui a joué avec les Flyers, puis qui avait ce rôle-là, puis qui aujourd'hui
essaie de
prendre toutes les tribunes pour dire « ça n'a pas de bon sens, faut qu'on arrête ça, faut qu'on arrête ça ». T'sais, si Carcillo dit ça publiquement, c'est probablement parce qu'il y a une raison. Là.
OK. Bon, messieurs, on va laisser la bagarre de côté. En tout cas, je vous dis, si on arrive à un moment donné à arrêter d'être hypocrite, ça va être pas pire, ça va être intéressant. Parlons de hockey maintenant. Les Islanders, les Pingouins sont de retour dans le portrait des séries. Puis c'est drôle parce que dans le dernier balado, on parlait des Capitals de Washington, on parlait des Red Wings de Détroit, on parlait des Flyers de Philadelphie. Les Flyers sont toujours là d'ailleurs. Sauf que là, c'est les Islanders de New York qui sont là comme dernière place disponible, comme meilleur deuxième. Les Pingouins de Pittsburgh.
Trois victoires de suite,
Trois victoires pour les Islanders et trois victoires de suite pour les Pingouins de Pittsburgh. Mm-hmm. Alors, Antoine, je commence avec toi. Comment tu vois ça, les Islanders et les Pingouins? Penses-tu qu'ils peuvent venir damer le pion à tout le monde à la dernière minute et se faufiler vers les séries de fin de saison?
Ben, les Islanders, ils vont devoir avoir plus de victoires que n'importe quelle autre équipe s'ils arrivent à égalité. Donc, ils ont un petit peu plus de difficultés que les autres équipes. Ça va leur prendre plus de points. Donc, oui, ils sont en série en ce moment, mais je pense que ça va être quand même difficile. Il y a deux équipes qui les pourchassent. On a Washington, puis même Pittsburgh dans une autre mesure. Mais pour moi, ça risque d'être compliqué. Je vois vraiment Washington puis Détroit, mais écoute, tout peut arriver. Il reste encore quelques matchs, mais c'est encore difficile à remonter. Des fois, trois points, surtout comme les Pingouins, ils ont un match en main, puis ils ont deux points de retard. Ça veut dire que si tout le monde gagne, ils sont à quatre points. Pour moi, c'est oui, ils sont revenus dans la course. Mais il va leur manquer de temps. Il va leur manquer de tarmac pour décoller parce que il va manquer de match. Puis quand tu te bats contre autant d'équipes, les autres équipes, ils savent aussi que leur vie est en jeu et ils vont être capables de le faire. Donc moi, je vois vraiment que Détroit puis Washington vont revenir puis ils vont être capables de se battre. Puis c'est ces deux équipes-là qui vont obtenir la dernière place de disponible.
C'est drôle, par exemple, parce que tu parles des Islanders. Ce à quoi Antoine faisait référence, c'était les victoires en temps réglementaire, parce que c'est ça le premier bris d'égalité. Alors, donc on enlève les victoires en tir de barrage, les victoires en prolongation. Alors, victoires en temps réglementaire, les Islanders en ont seulement 25. Alors, c'est de loin le plus petit chiffre parmi les autres équipes dans la ligue, dans la lutte. Mais les Pingouins, eux, en ont 30. Alors, les Pingouins, eux, parmi toutes les équipes en lutte, là, je vous donne les chiffres. Les Flyers en ont 28, Islanders 25, Capitals 28, Détroit 26, et les Pingouins en ont 30. Alors ça, c'est intéressant pour les Pingouins. En cas d'égalité, eux sont bien placés pour le bris d'égalité. Alors, il ne faudrait pas les exclure trop rapidement quand même.
C'est drôle. Parce que je pense d'ailleurs, en début de saison ici, là, on n'avait pas fait un petit quelque chose là-dessus. Est-ce que les Pingouins sont en fin de cycle? Est-ce que c'est le temps de tout défaire?
Ils sont quand même en fin de cycle pareil.
Attends, Richard, t'es là pour se vanter. Qu'est-ce que t'avais dit?
Je les avais placés exactement. Oh, non, c'est pas vrai. J'avais dit, oui, ils sont en fin de cycle. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient encore dans le portrait. Ils ont quoi, Guillaume? Je pense seulement deux défaites en temps réglementaire, leurs 10 derniers.
6-2-2 dans les 10 derniers matchs.
C'est quand même incroyable. Puis Sidney Crosby, un autre. Ben écoute, à chaque fois qu'on dit, ouais, il ralentit, ben il lève la main pour dire, non, je ralentis pas.
19 saisons de au moins un point par match. Ouais. Mm-hmm. Ce gars-là est une machine, on a parlé dans le dernier balado. OK, les gars, on va s'arrêter là-dessus, puis au retour, on va se parler d'une nouvelle qui est sortie dans le Hockey News. On dit que Rogers, vous savez que Rogers possède donc les droits de diffusion de la Ligue nationale de hockey, il reste encore 2 ans au contrat. Et on dit que pour les 2 dernières années, on songerait à vendre les droits des matchs du lundi à Amazon. Et ça comprend les matchs de série de fin de saison. Donc, ça se pourrait au courant des 2 dernières années du contrat que tu regardes un match à la télévision, puis t'en regardes un moment donné sur Amazon, puis si t'as pas l'abonnement, ben faut que tu payes, puis c'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale. C'est ça, la nouvelle Ligue nationale d'hockey. Ça s'arrête à tirer ça. On On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 51, avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé et Antoine Roussel. Les gars, j'en parlais avant la pause. Selon Hockey News, pour les deux dernières années du contrat, Rogers songerait à vendre les droits du lundi soir à Amazon. Je sais pas si on est en train de faire un préambule de négociation pour arriver à la fin du contrat pour dire à Apple, Amazon, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut que la Ligue nationale donne son accord quand même à tout ça. Guillaume, comment tu vois la situation, toi?
Ben, moi, ce que je vois surtout, c'est que ça a été un contrat très, très onéreux pour Rogers. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Rogers est tombé à un très, très mauvais moment pour obtenir ça, pour être le diffuseur national de la LNH au Canada, parce que Rogers est tombé dans une période de vache maigre des équipes canadiennes. Alors, Rogers, c'est depuis 2014 qu'il est le diffuseur officiel. Il y a eu une seule finale d'une équipe canadienne. On le sait, ça a été le Canadien en 2021. Alors, ça a été la seule équipe canadienne qui s'est rendue en finale. Les Maple Leafs de Toronto, depuis 2014, ont gagné une ronde en série. Les Canucks de Vancouver ont gagné une ronde. Ça, c'est deux des trois plus gros marchés de hockey, justement, du Canada, des trois plus gros marchés que Rogers dessert. Alors, tu sais, ces contrats-là de télé, c'est un moment où tu peux te refaire et sortir des grosses codes d'écoute et tout ça, c'est en série. Et Rogers n'a pas eu ça. Tu sais, je veux dire, le Canadien, c'était en 2021, c'était des séries qui sont finies au mois de juillet. Sinon, t'as Ottawa et Winnipeg qui ont eu des parcours en troisième ronde.
Mais qui sont
ça
des,
va, mais c'est des petits marchés.
Ouais, c'est des petits
marchés. C'est ça, exactement.
C'est ça,
ouais. Et il y a Edmonton, Edmonton, c'est pas un énorme marché, mais bon, il va toujours avoir de l'intérêt. Alors, eux, ça va. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça. Rogers n'a pas été gâté. Alors, je veux dire, clairement, je suis pas convaincu que Rogers en a eu pour son argent. Et ça, c'est peut-être une façon de.
Ah, la réponse.
D'une part, d'aller récupérer un petit peu
la
de
la réponse, c'est non, parce qu'eux autres, c'est sûr que l'instant où ils ont vu arriver là, les Tavares, puis les Matthews, puis les Marner, se sont dit, bon, ça y est, on va faire un petit bout avec ça, c'est pas arrivé. Alors, c'est sûr qu'eux doivent trouver une façon de se monnayer, mais tu sais, Jérémy, tu parles de la fin du contrat, c'est dans 2 ans, je me trompe
exact.
Pas, la fin du contrat télévisuel. C'est sûr que la Ligue nationale de hockey regarde ce qui se fait ailleurs. Et entre autres, présentement, du côté de la NFL, de plus en plus, on a commencé à fragmenter le marché. Il y a des matchs payants à l'unité. Il y a été un temps où c'était 2 réseaux qui se partageaient la tarte. Là, tu es rendu avec, je pense, 6 réseaux. On va tomber dans le modèle payant également au hockey. Je pense que c'est une question de temps. La grande question, est-ce que les gens vont vouloir payer pour ça? Parce que c'est pas, tu sais, la NFL a le beau jeu parce que c'est une fois par semaine. Et c'est un événement. Et la plupart des clubs, t'es souvent dans le coup là jusqu'à la fin de l'année. Il y a peut-être 4-5 clubs qui, au mois de décembre, jouent pour rien. Mais sinon, on a fait en sorte que le marché des séries, on garde les gens en haleine pas mal jusqu'à l'avant-dernière semaine.
T'as beaucoup moins de
même
matchs.
Oui, exactement. Donc, t'as vraiment une importance qui est rattachée individuellement au match. Tu sais, si le Canadien prend le pari, là, de vendre des matchs à l'unité, puis que le Canadien, au mois de mars, est à peu près où se trouve maintenant, il va y avoir beaucoup de gens qui vont dire « Ah, moi, à soir, Canadien Columbus, je vais payer 15$ pour ça.
» J'avoue que tu y penses.
C'est pas la même chose.
J'avoue que tu y penses.
C'est pas du tout la même chose.
Antoine, comment tu vois la nouvelle réalité de la Ligue nationale?
Ben, je pense que c'est un jeu dangereux d'essayer de copier, puis j'abonde dans le sens de Richard. Quand tu veux copier la NFL sur cet aspect-là, ça peut être c'est problématique parce que tu te bats pas à force égale puis c'est pas des bons comparables. Donc pour moi ça serait compliqué parce que le hockey c'est un sport qui a ses adeptes, c'est officiel, mais qui est toujours en recherche de croissance et qui a un potentiel de croissance. Puis si tu limites cette croissance-là en donnant accès, comme avec des achats à la pièce ou des réseaux ultra spécialisés, on va se donner un exemple comme le soccer a fait avec Apple puis la MLS, ben moi, personnellement, j'en écoute plus des matchs de l'Impact. Je me suis pas réabonné à Apple TV Plus pour écouter les games de l'Impact. J'écoutais les games de l'Impact avant, mais je pense que ce qui arrive, il y aura beaucoup de clients comme moi qui vont dire, ah, ben, le hockey, c'est pas grave. T'sais, je veux dire, je vais regarder autre chose. Puis, je pense que c'est ça qui va arriver. Donc, c'est un jeu dangereux. Je pense que les gros réseaux, veulent se défendre un petit peu, mais aussi les gros distributeurs, mais plus les Apple, les Amazon de ce monde, ils veulent rentrer dans ce marché-là, mais jusqu'à quel point en tant que ligue et propriétaire tu veux laisser cette place-là puis fermer ton réseau de potentiel de nouveaux clients. Je pense que c'est un pensez-y bien, Puis je pense que la MLS a bien montré que ça peut être compliqué. Mmh. C'est pas aussi facile que claquer des doigts puis que tout le monde va aller voir le soccer de cette manière-là, bien que ça soit un sport qui soit phénoménal, que l'impact est le fun à suivre pareil, mais que des fois tout simplement c'est l'accessibilité qui peut être compliquée. Puis on a tellement de choix maintenant de plateformes, ça devient éreintant, je pense, pour les gens à la maison de se dire OK, là, faut j'ai Netflix en ce moment, là j'ai Prime, OK, là, faut que j'annule ce mois-là parce que ça commence à devenir cher, tous ces abonnements-là. Tu peux pas tous les avoir. Donc au final, il va y avoir des choix qui vont se faire, puis le consommateur, au final, c'est eux autres qui vont avoir le dernier mot et c'est eux qui vont dicter le marché. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver.
Je pense qu'on a eu déjà un avant-goût quand la CBC a décidé d'arrêter la diffusion des matchs en français au Canada. On a vu que le format était, c'est soit que tu t'abonnes à des chaînes comme RDS ou TVA Sport, et même là, il y a des gens qui ont été réfractaires à ça, ont décidé de pas embarquer là-dedans. Fait que donc, t'imagines, si c'était compliqué d'aller prendre une chaîne spécialisée sur ta télévision, imagine comment ça peut être compliqué d'aller t'abonner, avoir un abonnement pour voir des matchs. Selon moi, je pense, la population canadienne, là, au Québec, je pense que ça va être compliqué. Je suis pas sûr que mon père va s'abonner à Amazon pour aller voir des matchs canadiens.
Je pense que les gens du hockey, peut-être plus que les autres chaînes, j'ai l'impression que les gens sont très attachés aussi à leur... tu sais, au Québec en particulier, je pense que les gens aiment beaucoup savoir qui va décrire les matchs. Il y a comme une certaine habitude. Je pense que je vais lancer des fleurs à Pierre-Houd, mais je pense que Pierre-Houd est... Beaucoup de gens qui veulent entendre le Canadien par la voix de Pierre-Houd. C'est correct, ça fait partie des habitudes aux États-Unis. Moi, quand j'étais petit, je voulais écouter le football avec...
Je vais ajouter Martin McGuire là-dedans.
Non, exactement. Je regarde, on peut en ajouter d'autres. Là. Mais moi, quand j'étais petit avec le football, moi, c'était Pat Summerall, John Madden. Je voulais entendre ces deux voix-là parce que sinon, c'était pas ma NFL. T'sais, imagine maintenant, là, tu vois un match canadien Blue Jackets décrit par un gars que tu sais pas c'est qui.
Mais là, on va peut-être faire comme on va faire dans la MLS. Écoutez bien ça, messieurs. Dans la MLS,
il y a de l'intelligence
deux clubs écoles qui vont s'affronter et il y aura un descripteur et un analyste qui vont faire ça en anglais et la traduction en français, en espagnol et une autre langue que je sais pas, je pense, j'ai aucune idée c'est quoi l'autre. Ça sera fait par l'intelligence artificielle.
Ça va être incroyable. Imagine tous les dérapages possibles. ça va être... Je pense pas que les gens sont... Tu sais, le hockey, on est un peu plus conservateurs aussi.
Hey, je vais te dire une chose, que si jamais l'intelligence artificielle anime le balado sortie de zone, je suis pas sûr qu'il va dire il a mangé ça drette sa suce.
C'est sûr qu'il y aura pas notre finesse d'humour non plus.
Ah non, écoute, par applaudissement, qui aimait ça? Il fera pas ça. OK, les gars, ça se complète, ce balado sortie de zone. Ça fait un plaisir encore une fois. Guillaume Lafrançois, toujours la fin. Merci, Guillaume.
Merci, Gérard.
Richard Labbé.
Toujours un plaisir, Richard.
Un plaisir partagé.
All right. Antoine Roussel, ben fun encore une fois. Merci beaucoup, Antoine.
Salut, les gars. Bye-bye.
Voilà ce qui conclut donc ce balado, épisode 51. Nous, on se parle lundi, le 8 avril.